Lorsqu'on exploite des ressources naturelles, il faut un marché, il faut une demande. Et la demande, elle est interne au Congo. Il y a la ville de Goma, il y a la ville de Beni, mais il y a aussi un réseau, surtout dans les pays voisins. Les ex-DDR ont des ramifications au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Donc, si on veut vraiment affaiblir les capacités économiques des ex-DDR, il faudra adresser justement cette question de ce réseau mafieux d'écoulement des ressources naturelles exploitées illicitement au Congo.
Et on parle d'un marchandage armes contre ressources naturelles, est-ce que c'est le cas?
Le fait que beaucoup de gens pensent que les FDLR attendent de l'armement qui vient de l'extérieur, non, moi toutes mes recherches indiquent qu'ils vont développer des circuits d'approvisionnement internes. Il a été établi que beaucoup d'armes et de munitions étaient achetées localement auprès de certains groupes armés et mais surtout auprès de l'armée congolaise et FARDC.
Là, on parle de réseaux internes ou régionaux, mais l'ONU estime aussi qu'il y a des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, les Émirats et même la Grande-Bretagne qui seraient acheteurs des produits exploités par les FDLR. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que le tout commence au Congo. L'absence de l'autorité de l'État, c'est ce qui a donné libre cours à des personnes en armes pour pouvoir exploiter illicitement les ressources naturelles là où l'État n'est pas présent. Il faut que le Congo puisse mettre en place un système efficace pour pouvoir contrôler le flot de toutes ces matières, surtout dans les régions riches.
Le problème est donc pour vous plus local que international.
Quant aux pays à l'extérieur qui achètent, depuis quelques années, je crois que le Conseil de sécurité continue à dénoncer justement, mais il faut que le Conseil de sécurité puisse prendre des mesures, pas des sanctions juste au niveau des papiers.
La semaine dernière, on a appris l'arrestation d'un des chefs FDLR en Allemagne. Est-ce que ça peut affecter concrètement, réellement, les FDLR qui sont au Congo?
Vu les dissensions qui existent aujourd'hui au sein des FDLR, je ne pense pas que l'arrestation d'Ignace va avoir une influence très grande sur le terrain. Ma crainte est aussi qu'on risque d'avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire que les durs des FDLR se disent « bon, maintenant nous n'avons plus rien à perdre » et que malheureusement, ce sont les populations civiles congolaises qui vont payer le prix. Avec en face des FARDC et des troupes de la MONUC qui sont pas capables de contenir les attaques contre les populations civiles.
Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui rendre les forces armées congolaises et la MONUC capables de protéger les civils et aussi les minerais congolais?
Il ne s'agit pas de confier la protection des mines aux FARDC. Il s'agit de démilitariser les mines, donc chasser les FDLR des zones minières, mais rendre les mines sous contrôle de l'État congolais. Les FARDC arrivent à chasser les FDLR. Mais puisqu'il n'y a pas consolidation des positions conquises ou reconquises, les FDLR, quelques temps après, reviennent à la charge et font subir des actions à la population. Donc nous sommes en train d'assister à une guerre qui risque de durer très longtemps. Parce que nous avons d'une part l'armée congolaise qui se déploie comme dans une guerre classique et de l'autre part, nous avons les FDLR qui sont dans un dispositif de guérilla. Nous risquons de voir ces opérations se prolonger dans le temps.